Théologie fondamentale, Père Philippe, 9 décembre 1982,
Rimont. Il y a une opposition entre l'objet formel et l'objet matériel. L'objet matériel, c'est ce qui est connu. Et la raison sous laquelle je connais cette réalité, je la connais sous cet aspect particulier. Alors ça, c'est la raison formelle sous laquelle j'atteins cette réalité. Donc objet et raison formelle se tiennent. Alors, c'est très vrai que la résonance est différente, ça, tout à fait d'accord. Raison a quelque chose de plus objectif que objet, si je veux dire. Parce que c'est ce qui est atteint par la connaissance. C'est ça la raison. Alors, la raison fait appel à l'aspect fondamental de la connaissance. Objet fait appel à la détermination de la connaissance. Je ne sais pas si vous voyez bien. On va essayer de préciser ça. Bon. Le concept, le verbe mental, comme dit Maritain, le verbe mental, le concept, il est à l'intérieur de ma connaissance. Toute connaissance intellectuelle implique un concept. Bon. Donc, il y a un concept qui est le contenu de cette connaissance. Ce concept, il provient d'où? Il provient de l'objet, de la réalité connue. Cette réalité, en tant qu'elle détermine mon concept, c'est bien l'objet. Et je dirais objet formel, pour bien préciser l'aspect sous lequel cette réalité est connue. Donc c'est une précision à l'intérieur de l'objet. Mais l'objet, c'est le principe de détermination. Et donc le principe de détermination est toujours formel. Un petit pléonasme de dire objet formel, c'est évident. Mais on est obligé de dire ça parce que les gens confondent tellement objet et réalité connue. Déjà du temps de saint Thomas, et encore plus aujourd'hui. L'objet, c'est ce qui est connu. Mais non, c'est pas ce qui est connu. C'est ce qui détermine ma connaissance. Et ce par quoi je connais cette réalité. Et donc, c'est pour ça qu'on dit objet formel. C'est pour la distinguer de l'objet matériel. Vous comprenez, formel, c'est toujours opposé à matériel. Dites-vous bien ça. Alors, l'objet matériel, vous comprenez que c'est gros. Mais ça s'emploie, l'objet matériel. C'est ce qui est connu. Bon. Alors, vous voyez bien qu'à l'intérieur de la réalité. Et je peux encore dire que ce concept, donc, qui est déterminé par l'objet, ce concept saisit dans la réalité sa raison. Donc la raison précise le contenu même de mon concept. Le contenu même de mon concept, c'est-à-dire le contenu même du fondement, le contenu même qui fonde ma connaissance. Plus exactement dire ça. Ce qui est atteint de la réalité par son objet formel, c'est sa raison formelle. C'est ce qui est atteint dans la réalité, c'est sa raison formelle. Tandis qu'objet spécifie. Donc l'objet regarde la connaissance, spécifie les connaissances. Raison, plutôt la réalité connue. C'est en ce sens-là qu'il y a des connaissances. Il y a au point de vue psychologique quelque chose d'un petit peu différent. Objet est relatif à l'intelligence, connaissance. Et raison, ce qui fonde, ce qui est atteint dans la réalité connue. La raison formelle. C'est comme ça que vous rappellerez, vous direz, la ratio est 10. Bon, la ratio est 10, ce n'est pas le concept d'être. La ratio est 10, c'est ce qui est saisi dans les réalités quand je les connais sous le point de vue métaphysique. Oui. C'est pour ça que je peux dire que l'objet, c'est ce qui spécifie ma connaissance, et la raison formelle, c'est le fondement dans la réalité de ce qui spécifie ma connaissance.
C'est des petits trucs, hein, il faut le savoir. Ça fait partie de précision scolastique. Bonne, c'est bon. De la scolastique de saint Thomas, donc c'est bon, c'est pas décadent. Oui. L'intellect, c'est la raison.
L'intellect, oui, l'intellect. L'intellect, c'est l'intelligence. Hein? C'est l'intellect, c'est l'intelligence. Quand je précise pas plus, quand je dis uniquement intellect, c'est l'intelligence. Quand je dis raison, je précise la manière dont je suis intelligent. Je raisonne. Ou je suis intuitif. Vous ne direz jamais une... Vous ne parlerez pas de la raison pour l'intuition. Vous parlez de l'intelligence. Oui, l'intelligence est faite pour saisir, premièrement. Elle n'est pas faite pour d'abord raisonner. Elle est faite pour saisir. Les raisonnements, c'est toujours second. On raisonne parce qu'on n'a pas saisi. Si on avait saisi, on ne raisonnerait pas. C'est pour ça qu'au bout d'un certain temps, dites, taisez-vous avec vos raisonnements, ça n'aboutira à rien. Et puis réfléchissez. Et puis quand vous vous mettez à réfléchir, vous comprenez, vous saisissez. Tandis que raisonner pour le plaisir de raisonner, vous savez bien, ça fait toujours penser à un moulin à café qu'on tourne indéfiniment et les grains de café sont épuisés, il n'y a plus rien du tout dedans et vous retournez indéfiniment. Les vieux moulins à café, c'était comme ça. Quand il y avait des grains dedans, ça avait une signification, mais quand il n'y avait plus, alors on tourne indéfiniment. Vous raisonnez pour le plaisir de raisonner. Il n'y a plus rien à broyer. S'il admet intégralement les articles de foi à titre de postulat, un athée peut-il être un bon théologien? Un athée intelligent, philosophe, d'une philosophie du réel, pour ne pas dire le réalisme, n'est-ce pas? Donc d'une philosophie du réel, alors un athée intelligent qui saisit le réel, qui n'a pas donc uniquement et qui respecte intégralement les articles de foi comme des hypothèses intéressantes, comme des postulats, peut-il faire de la théologie? Hein, c'est bien ça comme question. Difficilement semble-t-il, difficilement semble-t-il en théologie mystique, mais en théologie scientifique. En théologie mystique, bien évident, non. En théologie scientifique, bien évident, non. Et vous comprenez pourquoi? Parce qu'il peut être un bon logicien, mais pas un théologien. Il peut raisonner parfaitement. C'est pour ça que la logique a l'immense avantage de réunir les athées et les non-athées. C'est médiocre comme... œcuménisme, mais c'est quand même l'œcuménisme entre les athées et les athées, parce que je peux très bien, point de vue raisonnement, unir. Alors vous allez me dire, il y a le point de vue métaphysique, parce que la métaphysique n'exige pas la foi, c'est sûr. La métaphysique n'exige pas la foi, au moins la première partie de la métaphysique. La métaphysique n'exige. Mais si on a la première partie, on aura nécessairement la seconde. Et donc, on ne peut pas être athée et métaphysicien. On peut être idéologue et athée, mais pas métaphysicien, c'est pas possible. Parce qu'un vrai métaphysicien ne dira pas qu'il est athée, il dira qu'il est en recherche. S'il n'a pas abouti, il dira je suis en recherche. Mais un véritable métaphysicien ne peut pas dire que Dieu n'existe pas, c'est impossible. Parce que dans la piste de l'être, de ce qui est, il est conduit à ça. Non. Il peut être philosophe de l'art, peut-être philosophe de la nature, et même de la nature, je ne crois pas. Il doit au moins se poser la question. Il cherche. Un vrai philosophe cherche et ne conclut pas quand il s'agit de Dieu, s'il ne l'a pas atteint. S'il l'a atteint, il dit oui, mais alors, un idéologue, c'est différent. Donc, un philosophe, vous voyez, un théologien, de cette manière-là, athée, ne pourrait servir que d'une idéologie. Or, l'idéologie n'est pas une théologie scientifique. Donc, il n'y a pas de théologie scientifique. Il n'y a rien que la logique. Bon, continuons. Je relis, si vous voulez, parce qu'il y a déjà assez longtemps, et nous allons continuer ensuite, l'article 3. La doctrine sacrée forme-t-elle une science unique? C'est tellement court et tellement simple qu'il est bon de saisir cela. La doctrine sacrée est bien une science unique. Une science, n'est-ce pas? L'unité d'une puissance de l'âme ou d'un habitus, se prend en effet de son objet. Non pas de son objet considéré matériellement, mais envisagée du point de vue de sa raison formelle d'objet. Vous voyez, la raison formelle d'objet, c'est donc l'objet formel. L'homme, l'âne, la pierre, par exemple, se rencontrent dans l'unique raison formelle de colorer, qui est l'objet de la vue. C'est pour ça que le peintre, qui regarde tout sous le point de vue du coloré, peu importe que ce soit un homme, un âne, une pierre, ça lui est bien égal. C'est le sujet matériel, comme il dira, ça n'a aucune espèce d'importance. Il n'y a que le peintre des dimanches qui s'intéresse à l'âne, à la pierre et au mur. Tandis que le vrai peintre s'intéresse qu'à la couleur, s'intéresse qu'à la lumière. Que ce soit un âne qui a un dos doré ou un homme qui a une tête dorée, ça n'a aucune espèce d'importance. Le tout, c'est la couleur, le point de vue de la couleur. Oui. C'est ça qu'il regarde avant tout. On comprend très bien ça. Alors, aucune importance. Pas toujours, vous voyez, c'est une importance secondaire. Ce n'est pas ça le principal. Ce qui l'intéresse, c'est le point de vue de la couleur. Comme donc l'Écriture sainte envisage certains objets en tant que révélés par Dieu, ainsi qu'on a pu le voir, tout ce que Dieu peut révéler s'unifie dans la raison formelle unique de cette science. Et de ce fait, se trouve compris dans la doctrine sacrée comme une seule science. Et c'est une très grande simplicité comme article. Tout ce qui est contenu dans l'Écriture est regardé sous une unique raison formelle d'objet. C'est révélé. Tout. Dites ça aux exégètes d'aujourd'hui. Ils auront quelquefois de la peine à encaisser. C'est pourtant vrai ce que dit saint Thomas. Tout ce qui est dans l'Écriture est sous une unique raison formelle. Tout n'a pas la même importance, mais tout est sous une unique formelle. C'est révélé par Dieu. Alors, si tout est atteint dans la foi par cette raison formelle, on comprend comment on doit préciser, comment on peut préciser que, sous ce point de vue-là, tout ce qui est considéré en théologie relève de la même science. Vous voyez, l'unité de la foi permet de poser l'unité de la théologie. C'est ça, directement. Alors, voyons les objections. Il ne paraît pas, car, selon Aristote, une science unique suppose un seul genre sujet. Or, le créateur et la créature, dont il est également question dans la doctrine sacrée, ne sont pas unis dans une telle communauté de genre. La doctrine sacrée n'est donc pas une science unique. Réponse. La doctrine sacrée ne met pas Dieu et les créatures à égalité lorsqu'elle en traite. C'est de Dieu principalement qu'elle s'occupe. Et lorsqu'elle parle des créatures, elle les envisage selon qu'elles se rapportent à Dieu, soit comme à leur principe, soit comme à leur fin. L'unité de la science est donc sauve. Vous voyez l'objection, regardez les objets matériels. Et la réponse, regarde l'objet formel. Ça, c'est très net. Là, vous pouvez comprendre très bien la différence entre l'objet matériel et l'objet formel. L'objection regarde l'objet matériel. Rien n'est plus distant, la créature du créateur. Donc, c'est deux sciences différentes. Ce que Wolff avait très bien compris. Regarder l'être in communi et regarder Dieu relève de deux sciences, l'ontologie et la théodicée. Ce que dit Wolff au XVIIe siècle. Alors, c'est vrai, ça regarde deux objets matériels différents. Saint Thomas répond, ah, pas du tout. On peut regarder dans la même lumière Dieu et la créature en tant que l'un et l'autre sont révélés. Et donc, si je peux regarder Dieu et la créature sous la même raison, il n'y a aucune objection que la même science puisse traiter de Dieu et de la créature sous la même raison. C'est ce que je répondrai à Wolff. La théologie et l'ontologie regardent toujours les réalités limitées comme Dieu sous la même raison formelle, ce qui est en tant qu'être. C'est intéressant parce que là, on voit que ces réalités-là se touchent toujours. Bon. Deuxième objection. De plus, dans la doctrine sacrée, on traite des anges, des créatures corporelles, des mœurs humaines, toutes choses qui appartiennent à diverses sciences philosophiques. La doctrine sacrée ne peut donc être, elle non plus, une seule science. Réponse. Rien n'empêche que des puissances de l'âme ou des habitus de rang inférieur soient diversifiés par rapport à des matières qui se trouvent unifiées en face d'une puissance ou d'un habitus de rang supérieur. Car une puissance de l'âme ou un habitus, s'il est d'un ordre plus élevé, considère son objet sous une raison formelle plus universelle. Par exemple, le sens commun vise pour objet le sensible en général, qui comprend en soi le visible, l'audible. Ainsi, bien qu'il soit une seule puissance, s'étend-il à tous les objets des cinq sens. De même, l'unique science sacrée est en mesure d'envisager sous une même raison formelle, c'est-à-dire en tant que divinement révélable, des objets traités dans des sciences philosophiques différentes. Ce qui fait que cette science peut être regardée comme une expression de la science divine elle-même, une et simple, à l'égard de tout. Ça, c'est très beau, cette fin. N'est-ce pas? Sacra Doctrina sit velut quidam impressio divine scientiae, qui est una et simplex omnium. Bon, j'espère que vous comprenez, là, cette dernière partie. C'est simple, c'est un aspect critique, tout simplement, de considérer que plus une science, plus une faculté est élevée, plus elle est capable d'unifier. Alors, saint Thomas prend tout simplement l'exemple du sens commun. Le sens commun d'Aristote, qui est au terme des cinq sens, et qui unifie parce que ça regarde le sensible commun. Le sensible en général. Et donc, il unifie les autres. Tandis que les sens propres sont diversifiés. Alors on pourrait prendre des exemples, vous voyez, de sciences particulières comme les anciens faisaient. C'est très difficile dans la perspective moderne, on peut aussi considérer ça, des sciences qui se subalternent les unes par rapport aux autres. Et la science supérieure contient l'inférieur, tandis que l'inférieur ne contient pas le supérieur. C'est facile à saisir. Bon, alors, je crois que c'est pas la peine d'insister là-dessus. S'il y avait une question, il faudrait la poser. Article 4, vous pouvez toujours la poser après, hein, si vous, en réfléchissant dessus, il y a des questions, vous pouvez toujours. Hein. Article 4, la doctrine sacrée est-elle une science pratique? Ça, c'est très important, parce que c'est tout le statut de la science pratique qui est en cause. Oui, et alors là, on voit très bien la science théologique qui dépasse, la distinction science pratique et science spéculative sont dépassées. C'est pour ça que le philosophe et le métaphysicien, il ne sait pas très bien où il marche quand il marche en théologie, vous voyez. Donc, il marche dans des choses qui sont à la fois spéculatives et pratiques. Donc il marche dans une question qui est toujours un peu... C'est très intéressant, ça, c'est très intéressant parce que ça nous fait comprendre ce que c'est que le statut de la théologie. Alors, voyons tout de suite. Toute science, c'est le seul contrat. Cette contrainte Saint-Thomas. Toute science pratique se rapporte à des œuvres qui peuvent être accomplies par l'homme. Ainsi, la morale concerne les actes humains, la science de l'architecte, les monuments. Or, la science sacrée est avant tout la science de Dieu, dont les hommes apparaissent plutôt, apparaissent plutôt comme ses œuvres à lui, elle est donc plus spéculative que pratique. Oui, bien, le raisonnement de saint Thomas, c'est que en théologie, on regarde tout sous l'angle de Dieu. Tout dans la lumière de Dieu. Bon, si je regarde tout dans la lumière de Dieu, ben, je dois comprendre que la science et la théologie est plus spéculative que pratique. Dieu, je ne le fais pas, hein, premièrement. Je ne le fais pas. C'est donc quelque chose qui est au-delà de la morale, qui est au-delà du facere. C'est quelqu'un qui ne peut être que contemplé. Dieu, je ne peux que le contempler. Donc, il faut une théologie spéculative, contemplative, pour pouvoir s'aider jusqu'au bout. Une réponse. Nous avons dit que la doctrine sacrée, sans cesser d'être une, s'étend à des objets qui appartiennent à des sciences philosophiques différentes, à cause de l'unité de point de vue qui lui fait envisager toute chose comme connaissable au moyen de la lumière divine. Vous voyez, même la théologie mystique ne fait que ça. C'est pas une autre science. C'est pour ça que je ne peux pas faire de la théologie mystique si je n'ai pas la théologie scientifique. Il ne pourra donc, bien que parmi, il se pourra donc, bien que parmi les sciences philosophiques, les unes sont spéculatives, d'autres pratiques, mais la doctrine sacrée, pour sa part, sera l'un et l'autre, de même que Dieu, par une même science, se connaît et connaît ses œuvres. Toutefois, la science sacrée est plus spéculative que pratique, car elle s'intéresse aux choses divines plus qu'aux activités humaines, n'envisageant celles-ci que comme moyen pour parvenir à la pleine connaissance de Dieu, en laquelle s'accomplit l'éternelle béatitude. C'est facile à comprendre. C'est facile à comprendre, mais c'est très difficile à bien saisir. Hein? Parce que, vous voyez bien, c'est l'objection que vous pouvez tout de suite me mettre dans les pattes. Vous diriez ceci. Vous avez dit que la foi ne transformait pas le conditionnement de notre vie intellectuelle. Or, le conditionnement de notre vie intellectuelle présuppose la distinction entre spéculatif et pratique. Or, ici, vous dites que la théologie est éminemment pratique et qu'elle est à la fois spéculative et pratique. Donc, je suis devant la bouillabaisse. Vous voyez bien, tout de suite. Alors, vous diriez comme au cas, c'est pas étonnant que mes frères théologiens sont toujours très obscurs. Parce que justement, ils ne savent pas très bien si c'est du spéculatif ou du pratique. Tandis qu'en philosophie, je sais très bien la différence entre le spéculatif et le pratique. Je sais très bien que ma connaissance pratique, c'est une connaissance dont le point de vue, la lumière dominante, c'est la fin. C'est la finalité. La finalité ou la cause exemplaire, comme vous disiez tout à l'heure. Tandis que du côté spéculatif, c'est pas la finalité, c'est pas la cause finale, la cause exemplaire qui est première, c'est la connaissance, la cause formelle, comme telle, pas l'exemplarité. Alors, qu'est-ce que vous répondriez à ça? C'est vrai, c'est l'objection tout de suite. Hein? La foi ne modifie pas mon statut. Prenez, réfléchissez là-dessus, parce que ça c'est très intéressant. La foi ne modifie pas mon statut, mon conditionnement intellectuel. Dieu n'a pas inventé un nouveau langage. Dieu se sert du langage humain. Dieu se sert du langage humain. L'hébreu n'est pas une langue sacrée. C'est une langue humaine dont Dieu s'est servi. Le grec n'est pas une langue sacrée. Le latin n'est pas une langue sacrée. C'est une langue dont Dieu s'est servi. Et Dieu peut servir de n'importe quelle langue. Il s'est servi de l'hébreu parce qu'il avait choisi le peuple Israël, il a choisi du grec parce que c'est à telle époque c'est du grec, c'est choisi du latin également. Bon, des motifs très très particuliers, très intéressants du reste à étudier. C'est pas le hasard, hein, c'est voulu par Dieu. Il y a donc quelques petites connexions qui sont intéressantes à voir. Mais Dieu n'a pas inventé une langue particulière. Dieu n'a pas inventé de grammaire. Dieu n'a pas inventé de philosophie. Dieu respecte parfaitement le conditionnement de mon intelligence pour la foi. Alors, comment se fait-il que le point de vue de la foi est au-delà de la distinction du spéculatif et du pratique. Donc, au fond, à ce moment-là, Dieu ne respecte pas entièrement mon conditionnement intellectuel. Et la théologie est au-delà de la distinction du spéculatif et du pratique. Donc, ce n'est pas entièrement vrai ce que je dis. Hein, c'est pas commode, ça. C'est pas commode à comprendre. Et c'est l'objection, c'est intéressant, parce que c'est une objection qui est évidemment très forte. Alors, toute la question est de savoir, vous voyez, que représente exactement la structure du conditionnement de la vie intellectuelle? Que représente exactement la distinction du spéculatif et du pratique? Est-ce que ça fait partie de la structure de mon intelligence? C'est là. Le langage fait partie de la structure humaine de connaissance. L'abstraction fait partie de la structure humaine de ma connaissance. C'est très vrai. L'abstraction, c'est impliqué dans mon langage, puisque j'ai des mots concrets, des mots abstraits. Et je trouve dans l'écriture des mots concrets, des mots abstraits. Il est dit que Dieu est bon, il est dit que Dieu est la bonté. Très bien. Dieu respecte le conditionnement de ma vie intellectuelle. Est-ce que la distinction du spéculatif et du pratique fait partie du conditionnement de ma vie intellectuelle? Ou est-ce que ça fait partie de la structure de la philosophie? C'est ça qui est intéressant à voir. Dieu ne respecte pas le conditionnement de ma philosophie. La foi est au-dessus des distinctions philosophiques. Mais la foi respecte parfaitement mon conditionnement humain. Je crois que c'est la réponse. Vous voyez? Et c'est intéressant parce que ça précise les deux. Le conditionnement de ma vie intellectuelle, c'est quoi? C'est l'abstraction. C'est connaître par le point de vue de l'appréhension, du jugement et du raisonnement. Ça, c'est la structure de ma vie intellectuelle. En critique, hein, vous justifiez le point de vue de la connaissance spéculative et pratique, mais pas comme une structure de connaissance. C'est pas une structure de connaissance, au sens absolu. C'est une structure seconde, toujours. Mais bon, c'est pas premier, c'est quelque chose qui est très important en philosophie. En philosophie, c'est capital. Mais c'est parce qu'il y a abstraction, c'est parce qu'il y a abstraction qu'il y a un développement philosophique du côté spéculatif et du côté pratique. Mais le développement pratique et spéculatif n'est pas tout à fait premier, n'est pas le conditionnement de la vie intellectuelle. Vous voyez, c'est le développement second. C'est au niveau des habitus, c'est pas au niveau de la faculté. Il n'y a qu'une seule faculté d'intelligence, il y a une faculté d'être intelligent. On va dire, ah moi je suis intelligent uniquement du côté spéculatif. Alors c'est vrai, vous avez développé la partie spéculative de votre intelligence, c'est pour ça que spontanément vous êtes intelligent du côté spéculatif. Mais vous êtes intelligent. Donc, puisque vous avez développé votre partie spéculative, vous n'avez qu'à développer votre partie pratique maintenant. N'est-ce pas? C'est-à-dire qu'à faire ça, faites un petit effort et ça viendra. Si vous avez développé votre intelligence pratique, eh bien vous devez maintenant développer votre intelligence spéculative. Faites un effort et ça viendra. Ça ne pousse pas tout seul. Oui. Vous ne pouvez pas dire, ah, moi, je suis né avec un intellect spéculatif. Mon intellect pratique, non. Ça, c'est... Non. Le développement de l'intellect pratique et spéculatif, c'est au niveau des habitudes. Au niveau des habitus. Alors c'est vrai, il y a des habitus spéculatifs et des habitus pratiques. Il y a la sagesse au niveau spéculatif et la sagesse au niveau. Donc c'est au niveau des habitus. C'est pas donc premier. Ce qui explique comment la foi peut dépasser cela, parce que la foi s'enracine non pas dans nos habitus, mais dans notre faculté, dans notre intelligence. C'est dans notre intelligence qu'on s'enracine la foi. Elle s'enracine pas dans nos habitus. Grâce à Dieu. Parce que si la foi, pour s'enraciner en nous, réclamait la métaphysique, vous voyez ça, hein, vous ne seriez croyant qu'à partir de 45 ans. Mais ben, ce serait ça, on a l'habitus métaphysique. Ou bien l'habitus pratique de prudence. Ça met du temps d'être prudent, ça met très longtemps. Alors si l'habitus de foi ne pouvait s'enraciner que dans les habitus, non, l'habitus de foi s'enracine dans notre faculté elle-même, dans notre puissance, dans notre dynamisme.
Est-ce qu'on ne peut pas dire que puisque la foi est pour l'amour, elle est éminemment pratique, elle ne se comprend pas en elle-même?
Ah, ça c'est une autre objection. Donc là, vous allez contre ce que dit saint Thomas. Vous voyez, reposez votre question pour que tout le monde voit bien cette objection, c'est une objection. La foi est éminemment pratique en ce sens que la foi m'ordonne vers le pas de l'amour de Dieu. C'est bien ça. La foi m'ordonne. La foi est tout entière ordonnée vers la charité. C'est sûr. La foi est tout entière ordonnée vers la charité. La foi est pour la charité et la foi n'est pleinement elle-même que dans l'exercice de la charité. Si la foi est entièrement ordonnée vers la charité, il faut donc dire que la théologie qui présuppose la foi... Vous voyez, reposez votre question pour que tout le monde voit bien cette objection, c'est une objection. La foi est éminemment pratique en ce sens que la foi m'ordonne vers le pas de l'amour de Dieu. C'est bien ça. La foi m'ordonne. La foi est tout entière ordonnée vers la charité. C'est sûr. La foi est tout entière ordonnée vers la charité. La foi est pour la charité et la foi n'est pleinement elle-même que dans l'exercice de la charité. Si la foi est entièrement ordonnée vers la charité, il faut donc dire que la théologie qui présuppose la foi et qui est commandée par la foi plus que par l'intelligence humaine, la théologie est donc avant tout et en premier lieu pratique parce qu'elle s'ordonne vers la foi. C'est un bon raisonnement ça, n'est-ce pas ? C'est le raisonnement que disent certains, vous savez, et c'est vrai, c'est le point de vue de la théologie mystique avant tout. On est avant pas du spéculatif. Il y a quelque chose de juste. Alors, comprenons bien. Qu'est-ce que c'est que la théologie ? Au point de vue de la foi, je suis d'accord. La foi n'est parfaitement elle-même que quand elle est au service de l'amour. Au point de vue de la foi parfaite. La théologie, qu'est-ce que c'est ? La théologie, c'est de rechercher fides quaerens intellectu. C'est fidèle, spérant, c'est la foi cherchant l'intelligence. C'est la foi cherchant à comprendre le mieux possible la parole de Dieu. C'est ça le point de vue de la théologie. La théologie, c'est pas premièrement aimer Dieu. Non. Si c'est premièrement aimer Dieu, faites en raison. Ça, c'est premièrement aimer Dieu. L'oraison, premièrement aimer Dieu. Et c'est pour ça que l'oraison développe l'amour, comme saint Bruno dit. La raison développe l'amour. Et la raison, c'est une œuvre d'amour. Parce que c'est vraiment ça qui est l'essentiel et premier dans le développement propre de la raison. C'est développer l'amour. Et saint Thomas dit la même chose. Et tous les grands saints diront la même chose. La raison, c'est une œuvre d'amour. On ne dira jamais, la raison est premièrement une œuvre intellectuelle. Alors, tous les intellectuels devant, les autres petits derrière. Non, non. On dira que la raison, en premier lieu, développe l'amour. C'est très vrai. La théologie, c'est la différence. C'est pour ça que je ne peux pas mettre tout à fait sur le même pied théologie et raison. Ou sur le même niveau. La théologie, elle, essaie de pouvoir transmettre aux autres le point de vue de la foi. Elle est en premier lieu adhérée à le mystère de la parole de Dieu pour donner et montrer toute la signification profonde de la parole de Dieu, toute la signification intellectuelle de la parole de Dieu, toute la signification pratique de la parole de Dieu, toute la signification de la parole de Dieu comme telle. Donc je mets ma philosophie au service de ma foi. Vous voyez ? Si je mets ma philosophie au service de la foi, je développe dans la foi ce qui peut être développé intellectuellement. Oui ? C'est pour ça que c'est du côté de la spéculatif et non pas du côté pratique. Mais il y a quelque chose de juste, c'est pour ça qu'il faut votre raisonnement, c'est pour montrer la nécessité d'une théologie mystique. Je ne peux pas m'arrêter à cette intelligibilité de la théologie scientifique. Je dois aller plus loin et je dois montrer comment la parole de Dieu implique quelque chose de plus, implique des sources d'amour vers une espérance morale.
Bon. Pas d'autres questions? On peut y aller, c'est facile, ces questions-là, il n'y a pas de difficulté, je crois.
C'est la seule difficulté, c'est celle que je vous ai soulevée. Mais le reste, c'est facile, une fois qu'on a compris que, de fait, la foi s'enracinait dans ce qu'il y a de plus profond de notre intelligence, elle s'enracine donc au-delà de la distinction de ce qui est plus pratique. C'est au-delà. Et c'est pour ça que la théologie sera premièrement spéculative.
Article 5. La doctrine sacrée est-elle supérieure aux autres sciences? Ça, c'est très très important pour humilier le théologien.
Vous comprenez? C'est intéressant de voir ça.
Alors, les autres sciences sont appelées ses servantes. Ainsi, lit-on au livre des Proverbes, la sagesse a dépêché ses servantes, elle l'appelle sur les hauteurs. Évidemment, je crois que l'auteur sacré n'a peut-être pas pensé tout à fait exactement à ce que dit saint Thomas ici, mais ça fait partie de l'exégèse du Moyen-Âge, ça fait partie d'une certaine tradition, d'une certaine manière de considérer les cas de Dieu. Alors faisons attention aujourd'hui, hein. Sortez pas ça en disant c'est saint Thomas qui dit, donc on pourrait prendre d'autres raisons. La doctrine sacrée est-elle supérieure aux autres sciences? Voici ce que dit saint Thomas. La vérité est que cette science, à la fois spéculative et pratique, dépasse sous ce double rapport toutes les autres sciences. Parlant des sciences spéculatives, on doit appeler la plus digne celle qui est la plus certaine et s'occupe des plus hauts objets. Or, à ce double point de vue, la science sacrée l'emporte sur les autres sciences dites spéculatives. Elle est la plus certaine, car les autres tirent leur certitude de la lumière naturelle de la raison humaine qui peut faillir. Elle tire la sienne de la lumière de la science divine qui ne peut se tromper. C'est elle aussi qui a l'objet le plus élevé, puisque sa considération principale se porte sur ce qui dépasse la raison, au lieu que les autres disciplines convergent vers ce qui est soumis à la raison. Donc les deux grandes raisons, hein, pour montrer combien la science sacrée l'emporte sur toutes les autres spéculations. Vous voyez, c'est très significatif. Hein. Durant toute cette question, on voit tout le temps combien saint Thomas lit la théologie à la foi. Il raisonne sur la foi. Ça, c'est très, très significatif. Et c'est très intéressant, parce que ça fait bien découvrir ce que c'est que la théologie pour le Moyen-Âge. Nous avons un peu laïcisé, nous. Hein. Alors, on met des couteaux, mais la théologie, la foi. Alors que, pour un homme du Moyen-Âge, comme saint Thomas, inséparable. Et la qualité de votre théologie dépend de la qualité de votre foi. C'est elle aussi qui a l'objet le plus élevé, puisque sa considération principale se porte sur ce qui dépasse la raison, au lieu que les autres disciplines envisagent ce qui est soumis à la raison. Alors, quand il s'agit des sciences pratiques, on doit dire supérieure, celle qui ne vise pas au-delà d'elle une autre fin, telle la politique pour l'art militaire. Ça, c'est intéressant, l'art militaire et la politique. Le bien de l'armée est en effet ordonné à celui de la cité. Or, la fin de notre doctrine, selon qu'elle est pratique, n'est autre chose que la béatitude éternelle, but auquel se réfèrent comme à la fin suprême toutes les autres fins des sciences pratiques. De toute façon,
La science sacrée est donc prééminente. Elle est doublement prééminente. Prééminente par rapport aux sciences spéculatives, prédominante par rapport aux sciences pratiques.
Alors ça, c'est facile à comprendre. Regardez la double comparaison. Alors, on regarde tout de suite les objections, si vous le voulez. Enfin, c'est les deux grands aspects, le point de vue de la finalité, le point de vue de la structure. Alors, vous voyez, les arguments sont un petit peu différents. Si vous voulez regarder ça, c'est évidemment intéressant. L'argument au point de vue proprement spéculatif, c'est que c'est la plus certaine. Et second objet, l'objet le plus élevé. Et l'argument au niveau pratique, c'est le point de vue de la fin. Choisit la fin, une fin comme le point de vue de la fin, le point de vue de la parce qu'elle a du ultime. Plus elle touche les fins ultimes, plus nécessairement elle est au-dessus. Donc, certitude, objet le plus élevé, fin. Vous voyez, trois raisons très différentes. Ceci au niveau de la connaissance. Connaissance spéculative, connaissance pratique. Oui, intéressant de voir ça. Mais on pourrait se demander si on voulait réfléchir un peu là-dessus. Parce que c'est essayer de comparer les différentes sciences, les différentes connaissances, et voir laquelle est plus parfaite. Alors quand il s'agit du spéculatif, vous comprenez bien, cet homme ne parle pas de la question de l'objet. Parce que c'est le point de vue de l'évidence, c'est le point de vue de l'objet. Or, au point de vue de l'objet, la foi met à toute la théologie quelque chose qui ne va plus du tout. Parce que c'est non évident. Donc, du côté de l'évidence, c'est la science la moins parfaite. Il ne faut pas l'oublier, du côté de l'évidence. C'est la science la moins autonome, puisqu'elle dépend de la foi. Alors, il prend le point de vue de la certitude, on peut très bien dire, une science est plus parfaite si elle est plus certaine. On prend le point de vue de la certitude et on prend le point de vue de l'objet le plus élevé. Parce que le point de vue de la certitude, c'est une propriété qui subsiste dans la foi est la question et la connaissance la plus certaine, donc on comprend qu'elle soit source d'une science certaine, et puis l'action. L'objet le plus élevé, on retrouve du côté objectif là, mais pas du côté crainte ou certitude, mais du côté objectif. En ce sens-là, c'est le plus élevé. Et alors, le côté finalité, on comprend, parce que ça, c'est le point de vue pratique, c'est la fin qui tout de suite commande tout. Oui. C'est intéressant de réfléchir simplement là-dessus, pour qu'on comprenne mieux ce que représente connaissance pratique, connaissance spéculative. Connaissance spéculative, connaissance pratique. Qu'on voit les propriétés de la connaissance spéculative, les propriétés de la connaissance pratique.